Madame, merci, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Saint-Esteban et je suis donc doctorante en anthropologie sociale à l'école d'Obstétrique sociale et je travaille dans le sud du Pérou, dans une communauté de bergères de camélidés. Et en cette opportunité, je vais parler sur... sur la oncunia. La oncunia, c'était un tissu carré qui était toujours utilisé depuis les périodes préhispaniques dans le Pérou. Ay, caramba. Et comment je fais pour...
Comme ça, c'est...
Ok, merci. Bon. D'abord, je vais faire une petite présentation en disant que la société andine est une société du textile. Parce que le textile a un rôle très important dans la transmission du savoir-faire qui est lié à la pensée locale au long de l'histoire péruvienne. Par exemple, on a les tissus paracas, que vous voyez, que c'est de la côte sud du Pérou. Les chemises anca. C'est la chemise de la couleur beige. Ensuite, il y a les châles, que c'est la oncunia, c'est marron. Et le tissu de en bas, c'est un liglia, une espèce de châle. Okay. Aussi, il y a les vêtements traditionnels qui s'appellent poncho. Il est des sacs qui s'appellent talegas. Et à côté, c'est un autre petit sac qu'on utilise pour porter des feuilles de coca pendant les rituels. Les textiles andins sont connus par leur finesse et beauté esthétique. Par exemple, Junior Beard mentionne que les textiles ont une place importante parmi les nouveaux textiles qui n'étaient jamais faits. Cette citation met en accent la beauté du textile et l'admiration qu'il génère dans les études de l'époque, quand ils ont commencé à étudier. On a parlé beaucoup de la finesse des textiles dans la région andine, mais on n'a pas parlé trop sur la notion technique. Mais aujourd'hui, les deux personnes qui ont parlé sur les textiles, ils mentionnaient que c'est important de les étudier. Donc, c'est Sophie Desrosiers, qui est une spécialiste sur les textiles dans la région andine. Elle propose que les logiques textiles reproduisent d'une certaine façon les logiques culturelles. Dans ma présentation, je vais me référer à la technique textile, à l'importance, c'est-à-dire à la fonction sociale, et à l'analyse iconographique de la oncunia de San Pablo. Comme ça. Mais qu'est-ce que c'est la oncunia? La oncunia est un tissu de période préhispanique, de forme carrée. Elle peut être de différentes tailles, grande, moyenne et petite. Elle est utilisée pour porter des feuilles de coca ou des objets personnels. Au niveau vestimentaire, la oncunia est en relation avec le châle du système vestimentaire féminin. Le châle, c'est, vous voyez la petite étoile? Ça, c'était un châle qu'on porte sur les épaules. Depuis la période préhispanique, les textiles sont en relation avec l'identité ethnique de chaque peuple. C'est-à-dire que dans les différents peuples de la région andine, ils ne vont pas utiliser les mêmes textiles. La technique de la confection, c'est la même, mais l'iconographie, la combinaison chromatique, c'est différente. Donc, les textiles sont considérés comme une carte d'identité de la personne. Et en cette opportunité, je vais me référer qu'à la oncunia de San Pablo. C'est où je fais mon travail de terrain. Et San Pablo, dans le village de San Pablo, la oncunia se caractérise pour avoir des rayures de couleur. Ce sont les petites lignes. Un petit motif tissé pour rapport à l'oncunia de les autres villages que vous voyez en bas. Il y a la fille qui le porte sur les épaules. sean un cuña noir, que c'est différent à la cuña de San Pablo, et à l'autre, si la dame qui porte le petit enfant, c'est d'une autre couleur la cuña. Donc on peut voir la différence qu'il y a d'un village à l'autre. À San Pablo, la cuña est portée que par des femmes de tous les âges. Et je vais vous montrer où se trouve le village de San Pablo. Le village de San Pablo se situe au sud de la province de Canchis. Ay. Bon, dans la région de Cusco, je ne le vois pas ici. Ok. Il y a un cercle rouge, ça c'est la ville de Cusco. Et en descendant, se trouve un point rouge, c'est San Pablo. Et San Pablo, c'était un district composé par des communautés de bergères, de camélidés et des agriculteurs. Ok. Et comme ça, vous pouvez voir qu'il y a une variation écologique. Tout au nord, c'est la communauté des agriculteurs, c'est que c'est la vallée. Et on voit le paysage de la communauté de Selvor, qui est complètement dominée par les montagnes, par les chaînes montagneuses. Et la communauté de Omba s'appelle Santa Barbara, qu'elle se trouve localisée entre les 3800 et 4200 mètres d'altitude. La principale activité économique de Santa Barbara est l'élevage d'alpagas, de lamas et de moutons. Le revenu principal des gens de Santa Barbara est de la viande de la vente de la laine d'alpaga aux petits commerçants de la ville de Sicuani, qui est la plus proche, de la viande déshydratée et des textiles. Et Santa Barbara appartient à la région écologique de la Puna. Dans cette région, il y a deux périodes. La période de sèche, qui est de mai à octobre, et la période de pluie, qui se déroule de novembre à avril. C'est pendant cette période qu'a lieu les principales cérémonies rituelles de fertilité et de protection du troupeau qui sont en connexion avec les entités sacrées locales. Avant de vous présenter le rôle social que la cuña a dans les rituels de fertilité du troupeau de carnaval, je vais me référer à la partie technique de la cuña. Je vais d'abord commencer, pardon, comme ça on a une image de Santa Barbara, de la communauté. Et je vais me référer à la chaîne opératoire de la cuña. Il y a 5 étapes de la chaîne opératoire et la première c'est l'obtention de la laine. On obtient la laine à partir de la tonte des animaux qu'on va le faire le mois de novembre. Et la partie en haut c'est l'enclos des animaux. Et normalement, pour faire la tonte, ils vont amener les animaux dans l'enclos. Et la propriétaire ou la personne qui va le faire, elle va choisir un animal. On va commencer à les tonter les alpagas à partir des 2 ans. Et que normalement, c'est considéré qu'ils sont la laine la plus fine. On ne tonte pas les alpagas femelles, ni les alpagas qui sont enceintes. pardon. Et le responsable de faire la tonte, ça peut être un homme ou une femme. La deuxième étape de la chaîne opératoire, okay, c'est le lavage et le cardage de la toison. Normalement, le lavage et le cardage de la toison se fait d'une façon traditionnelle. Là-bas, on voit qu'elle est en train de laver la toison et après, ils vont la faire sécher. Normalement, on la lave un jour très ensoleillé. Et après qu'il est séché, avant de faire le filage, ils vont commencer à tirer de toison pour les adoucir. Après cette étape, c'est la troisième, c'est le filage, c'est-à-dire comment ils vont obtenir le fil. Pour le filage, ils vont le faire avec un fuseau qui s'appelle pushka. Vous voyez là-bas. Et le pushka, c'est un fuseau fait en bois. Il est constitué par une tige et l'axe de rotation, qui est le volant d'inertie. C'est différent des fuseaux que vous avez ici en Europe. La tisserande mentionna que les épaisseurs de la tige déterminent aussi les épaisseurs du fil. C'est-à-dire qu'une tige plus mince ou plus fine produit un fil plus fin, qu'une tige plus grosse qui va produire un fil plus épais. Et à Santa Barbara, comme beaucoup d'autres villages des Andes, il y a deux types de fils. Les fils qui sont tordus en direction aux aiguilles de l'horloge, c'est-à-dire en direction Z, vers la droite, qui sont nommés Pagna, et les fils qui sont tordus en sens contraire aux aiguilles de l'horloge, en direction S, vers la gauche, qui sont nommés Lioque. Presque tous les textiles, ici vous voyez les personnes comment ils sont en train de filer, ils sont ici la toison et ils sont en train de faire tourner le fuseau. Donc le filage, ça peut le faire les femmes ou les hommes, n'importe à quel âge, de quel âge. Et pour rapport au fil, normalement, presque tous les tissus, tous les tissus sont faits avec des fils tordus vers la droite. Mais, comme toujours, il y a une exception. Il y a certains tissus qui sont confectionnés avec des fils tordus vers la gauche. Selon les tisserandes, les fils en direction gauche ont des pouvoirs magiques et rituels. Alors, ils sont utilisés pour confectionner certains textiles. Le petit textile que vous voyez au milieu s'appelle mise en cugna. C'est une version plus petite de la grande cugna que vous avez vue. Ça, c'était fait avec les fils tordus vers la gauche parce que sa fonction, c'est de protéger les petites images d'alpaga en pierre que vous voyez à côté. Ou l'autre pierre aussi qui est considérée une pierre sacrée, qu'ils vont les mettre et envelopper par ces petits textiles. Mais aussi, on a des espèces de ceintures qu'on utilise pour envelopper les bébés, c'est pour les protéger des mauvais oeils. Et aussi, c'est les chamans qu'ils vont utiliser des petites uncunas pour faire des rituels, surtout quand ils vont faire une méchanceté à quelqu'un. La uncunia peut être confectionnée tant en fibres synthétiques qu'en laine naturelle, soit de alpaga, de mouton ou de lama. Et l'autre étape, c'est l'ourdissage. Peut-être beaucoup d'entre vous avez entendu parler de Raoul Darcourt. C'était un Français qui a travaillé beaucoup sur les textiles préhispaniques au Pérou, surtout avec le textile paracas. Donc, ils définissent le processus d'ourdissage, que c'est l'opération qui consiste à disposer et à tendre des fils de chaîne entre les bâtons du métier en vue de leur croisement par la trame. L'ourdissage consiste à disposer et à tendre les fils de chaîne entre les bâtons du métier à tisser. Ici, on voit comment ça sert le processus. On les met sur le métier à tisser. Et le métier à tisser qu'on utilise dans la région andine, c'est un métier à tisser de forme horizontale. Et c'est encore de la période préhispanique. Le métier à tisser est de type horizontal, qui peut être à quatre pieds ou à la ceinture. Ici, on voit que c'est de quatre pieds parce que les dames, la tisseronde, elle est en train de fabriquer une uncunia. L'ourdissage se fait toujours avec deux personnes qui se situent une à l'extrême de l'autre. La couple peut être constituée par la tisseronde et sa fille ou la tisseronde et son mari. Je considère que cette étape est une des plus importantes du processus textile parce que la tisseronde est obligée à visualiser les tissus déjà terminés pour pouvoir faire la distribution des fils de chaîne. C'est comme vous voyez dans la première image. Dans la deuxième, il est en train de passer les fils de chaîne. Et à la fin, on voit qu'il est déjà disposé les couleurs des fils. Et je voudrais préciser aussi que c'est seulement les femmes qui tissent dans le métier à tisser horizontal, tandis que les hommes tissent dans le métier à tisser à pédale qui était introduit par les Espagnols. Se dans le métier à tisser horizontal qui vont tisser la uncuña, le poncho et la petite uncuña que vous avez vue avant. Et la dernière étape de la chaîne opératoire, c'est le tissage. Et dans cette étape, la tisseronde montre toute son habileté pour confectionner un tissu très fin et avec de jolis motifs. La uncuña et aussi les autres tissus confectionnés avec le métier à tisser horizontal sont faits en phase de chaîne et se varient, c'est-à-dire en chaîne complémentaire de double face par le motif la technique de double chaîne en phase complémentaire, c'est qu'on peut les voir de les deux côtés. Tandis que pour faire la pampa et les rayures de couleur, c'est la technique qu'on utilise de la chaîne supplémentaire. C'est-à-dire, c'est plat. Il n'a pas, on peut pas les voir on peut les voir seulement d'un seul côté. La uncuña est confectionnée avec des techniques variées. Les techniques utilisées à la confection textile sont établies par la tradition locale et les techniques sont gardées dans la mémoire textile de la tisseronde et transmises de mère à fille. La transmission s'est toujours faite d'une façon orale. Et normalement, les petites filles elles vont apprendre à tisser en regardant. Si vous voyez dans la photo en haut, déjà, il signifie qu'elle commence à regarder, après elle va faire un petit métier à tisser à ceinture pour commencer à tisser des ceintures ou des petits bracelets. Et maintenant, je vais parler sur la fonction sociale de la uncuña, pour voir le rôle qu'il a dans la société de San Pablo et de la communauté de Santa Bárbara. La uncuña est la pièce du système vestimentaire féminin le plus pratique. Elle est presque toujours utilisée que par les femmes. La uncuña peut être considérée un équivalent de sac, si on le voit dans la société contemporaine et moderne, parce que les femmes gardent tous les petits objets à l'intérieur, sauf l'argent et d'autres objets parce qu'ils tissent aussi une espèce de porte-monnaie. Les femmes portent l'uncuña tous les jours et aussi les jours de fête. La uncuña a deux fonctions importantes. La fonction pratique, que c'est de porter pour amener des choses, comme un sac, si vous voyez là-bas. Et en face aussi la dame qui est à côté de son paquet, que c'est son uncuña. Mais aussi, c'est grâce à l'uncuña qu'on peut reconnaître l'état civil de les jeunes filles à la communauté. Pardon. On parle de jeunes filles qui portent une uncuña, mais de forme diagonale. Ça, c'est comme on peut reconnaître qu'elles sont des jeunes filles célibataires. Et on voit les filles aussi qu'elles sont habillées pour la fête du carnaval. Mais la fonction cérémonielle de la uncuña est d'utiliser comme un hôtel dans les cérémonies. Pour expliquer cette fonction cérémonielle et rituelle de l'uncuña, je vais vous mentionner un rituel propitiatoire de la fertilité et de la protection des camélidés. Comme on a dit, l'uncuña s'utilise pour porter des objets, mais pas n'importe quel objet pendant ce rituel. Ce sont des objets rituels qui sont beaucoup d'importance pour les bergères des camélidés. Donc, on les met dans un espèce de paquet comme ça. Ils vont porter ces paquets de la maison vers l'enclos pour faire les rituels. Il est porté par l'homme, qui est le responsable rituel. Et en bas, on voit les choses que contient ces paquets, les objets rituels. Par exemple, il y a des verres, il y a un tissu aussi mis en uncuña, qui est tissé en fil à gauche. Des verres, des fleurs, des sacs, des cordelettes, des sacs en cuir d'alpaga. Et à côté, on voit la fonction de la uncuña comme une espèce d'hôtel cérémoniel où on dépose les objets pendant le rituel. Et aussi, la uncuña, il peut permettre de faire une division temporelle de l'espace. Ou si la cunha détermine un espace qui s'il est plus rituel que des autres, comme on voit sur la dernière image. Et dans les communautés de en bas de la vallée, aussi les personnes vont aller au champ pour faire le tour du champ et pour ramasser les premières épices de maïs, pour après les amener chez soi pour faire des libations et des purifications. Mais ils vont les porter grâce à l'oncunia. Et on voit, dans l'autre image, on voit comment ils sont en train de se déplacer du champ vers la maison. Mais l'oncunia a un rôle très important dans les cycles rituels du village. Et la fête la plus importante du village, c'est le carnaval. Et le carnaval était lié à la notion de fertilité, pas seulement de la fertilité de la terre, mais aussi à la fertilité des êtres humains et des animaux. Parce que c'est dans cette fête que les jeunes hommes et les jeunes filles célibataires ils vont se rencontrer. Et normalement, à la fête de carnaval et à la notion de fertilité est liée la couleur blanche. Et les femmes, elles vont porter toujours une oncunia de couleur blanche. Et c'est la pampa qui détermine la couleur de l'oncunia. Donc, quand les personnes disent que les femmes commencent à porter l'oncunia de couleur blanche, on dit que le carnaval il est en train de commencer. Et aussi, comme c'est le moment propice pour les rencontres de les gens de la communauté, on voit comment les jeunes femmes sont repérées par les garçons. Donc ça, c'est une façon de les rencontres amoureuses. Ils sont en train de danser dans l'autre image. Ici, on peut voir comme les garçons, ils commencent à draguer à la jeune fille. Et dans l'autre image aussi, on voit comme l'oncunia, il peut identifier une personne qui habite dans la communauté et qui n'habite pas dans la communauté. La personne qui il est d'un côté, c'était une femme qui n'habite pas à San Pablo, qui habite dans une autre ville, mais qu'elle est retournée pour fêter le carnaval. Et moi, ça, je le sais, parce que l'oncunia, ce n'est pas la même. Ce n'est pas l'oncunia traditionnelle tissée à San Pablo, comme l'oncunia qui porte l'autre jeune fille, qu'elle habite au village de San Pablo. Donc, en ce moment, l'oncunia nous permet d'établir d'où vient la procédance de la personne. Ici, on peut voir comment elle est utilisée dans différents contextes. Et aussi, il faut dire que l'oncunia, c'était dans mon travail, j'essaie d'entendre les constructions des identités par rapport au système vestimentaire. Donc, l'oncunia, ça représente l'identité, pas seulement de la femme, mais aussi l'identité sanpablina, de les personnes vers l'extérieur. Et après de vous avoir montré la fonction sociale que l'oncunia a dans les rituels et dans la fête du carnaval, je vais vous parler sur le langage textile. Et je vais faire une interprétation iconographique de l'oncunia. Pour ça, je vais me référer à les unités textiles qui composent la surface textile de l'oncunia. Par exemple, les lisières, qui à Santa Barbara et à San Pablo, on va les nommer Tuli, Kenko et Kiru, les rayures de couleur, la pampa qui est toujours blanche, et les motifs mer, parce que quechua s'appelle mamapayay, et la couture qui s'appelle seraini. Et tous les tissus dans les ondes, ils sont composés par la pampa, que c'est le tissu, la bande blanche, et le motif. Il y a toujours ces deux éléments. Cette opportunité, je vais parler seulement de la pampa et le motif pour expliquer la signification que l'oncunia a pour les sanpablinos. La pampa è la von di un sol color che determina la color della uncugna. A Santa Barbara, le tisseronde identifie la pampa avec l'expression «juc color nin pampaio», che significa «la pampa di un sol color». La pampa è un mot polisémique. Elle réfère à un élément de l'environnement local, comme la terre plate et son différence d'altitude. Une pampa, c'est où ils sont les animaux, par exemple. À côté, il y a une autre, mais aussi c'est en relation avec la pampa du textile, parce que c'est plat et c'est fait avec une seule face. Donc, il y a une relation entre la pampa de l'environnement et la pampa du textile. La notion de pampa désigne l'espace ouvert sur lequel les animaux restent à manger. Mais aussi sur la pampa, il y a beaucoup de pâturages, de lacs, de ruisseaux, de sources de montagne et de glacières. Et les glacières, pour les bergères de camélidés, ça représente une divinité, c'est la montagne sacrée. Aussi, la pampa est considérée comme un espace interdit, dangereux, parce qu'elle se trouve dehors du centre social. Et le centre social, c'est la maison, la famille ou le village, parce que c'est un espace délimité, tandis que la pampa, c'est un espace ouvert. Le paysage social est délimité par l'ensemble des chambres et les enclos qui forment la maison de la famille, de la même manière que le motif Mama Payal. Par exemple, ici, on voit la chambre. Ça, c'était une maison. Ça, c'est le Mama Payal. Et on voit qu'il est délimité. Il n'est pas ouvert comme la pampa. Donc, il y a toujours des limites. C'est pour ça que c'est une ligne. Alors, on peut créer l'opposition complémentaire pampa motif, pampa maison, paysage naturel, paysage social, montagne sacrée, être humain. Et ici, on peut le voir parce que c'est... moi, je propose que c'est les hommes qui représentent l'espace social, comme le motif de la uncugna, qu'il est toujours délimité, par rapport à la pampa, que c'est un tissu plat et ouvert, comme la pampa du paysage qui était dominée par la montagne sacrée. Et le motif pampa, il est toujours resté composé par deux éléments, par une ligne de zigzag, pour la ligne de zigzag, qui représente pour la population locale la foudre, la rivière, mais aussi la montagne. Pour les communautés de bergères de camélidés de Santa Barbara, le zigzag est entendu comme montagne. La montagne est en relation avec l'entité sacrée Apu. Que normalement, l'Apu, c'est la montagne la plus haute, la plus élevée. Selon la tradition orale, le glacier éternel est le propriétaire des alpagas et des lamas. Il a prêté ses animaux aux humains pour qu'il laisse d'aller d'un endroit à l'autre. La montagne sacrée a fait sortir des alpagas du lac. Et la montagne a donné à l'homme une petite alpaga pour le protéger, qui est comme la petite pierre de forme d'alpaga que les bergers de camélidés gardent, que vous avez vu. Après, ici, on voit la ligne de zigzag, mais aussi... on peut voir la relation qu'il y a des lignes de zigzag comme la ligne de la montagne, de la chaîne montagneuse, un zigzag. Et après, c'est le motif rond qui s'appelle cocha, lac ou source. Et moi, je l'ai nommé un losange ovale. Et dans la tradition orale des alpagas, on dit que les alpagas, ils sont sortis du lac. Donc, ça représente son lieu d'origine. Et les losanges ovales se situent dans l'angle de chaque zigzag, comme les lacs qui se situe entre les montagnes ou au pied des glaciers. Comme on a vu ici, par exemple, il y a des petites formations d'eau. Ah, pardon. Et c'est toujours en bas des glaciers. C'est comme la même formation, le même motif. C'est le zigzag et juste en bas, il y a le losange. Alors, on peut dire que le motif mère de l'Oncunha est considéré comme le lac ou la source d'où les alpagas sont sortis. Alors, le motif lac est interprété comme le lieu d'origine de la société et la culture de Santa Bárbara. Elle est en relation avec la représentation cosmologique du lac et avec la forme de concevoir l'espace délimité. Pour la communauté de bergères de Camélidé, sont leurs biens plus importants les alpagas. Ils représentent les richesses, mais pas seulement une richesse économique, mais une richesse au niveau de représentation symbolique. Donc, les bergères de Camélidé s'occupent de leur protéger en les faisant des rituels de protection et de fertilité, parce que la disparition des animaux signifierait aussi la disparition des bergères de Camélidé de Santa Bárbara. Parce que selon la tradition orale des bergères de Camélidé, on dit que pour eux, la fin du monde sera quand les alpagas ils vont retourner dans la source. Donc, je voudrais conclure ma présentation en disant que le carnaval, la Oncunha, permet l'interaction sociale des gens. Elle est considérée comme un symbole de l'identité sanpablina. Dans le rituel propitiatoire. L'Oncunha protège l'objet donné par l'entité sacrée, Apu. Au niveau interprétatif, le langage de l'Oncunha m'a permis d'entendre la pensée locale, la cosmologie et la forme de concevoir le monde social. Des bergères de Camélidé de Santa Bárbara. Donc, le tissu devient un texte tissé. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses d'un textile et pas seulement voir la finesse, sinon voir plus loin qu'est-ce que signifie pour les personnes. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Des remarques, non?
J'ai une petite question. Je voudrais savoir si... Comment se présente ce tissu? S'il est très souple, très lourd ou pas?
Ah non, il est très souple.
Très souple?
Si. Si, 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 si.
Et c'est léger aussi?
C'est léger à le porter et c'est simple. C'est aussi pour la façon de le faire, de le tisser. O sea, les fils qu'on obtient pour faire la Oncunha, c'est vraiment fin.
Oui, j'ai une petite question concernant le filage, parce que je m'intéresse au textile, évidemment, et j'ai noté que dans énormément de sociétés, les hommes ne filent pas. Voilà, vous avez parlé d'une activité indifféremment homme ou femme, pratiquée par les hommes ou par les femmes. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de ségrégation?
Dans les Andes, non, parce que normalement, on peut dire que l'activité textile, c'est considérée une activité... de féminine, mais dans les Andes non, parce que c'est l'homme aussi qui va tisser des draps sur les métiers à tisser à pédale ou à pardon et, pour faire le pour tisser ces draps, l'homme il va filer. Et vous avez vu dans l'image qu'il y a le monsieur qui est un peu âgé qui est en train de filer, c'est parce qu'après il devait tisser un drap. Mais il n'existe pas vraiment cette division d'hommes-femmes pour faire le filage. Mais l'homme, il ne va pas filer pour que la femme utilise le fil pour qu'elle tisse. Non.
Il ne va pas filer pour la femme.
Merci. Il ne va pas filer. Il ne va pas filer pour la femme. Ah, pardon.
Alors, en fait, je voulais juste savoir si... du coup, c'est une production qui n'est pas... ils n'allaient pas prévu pour être commercialisés en dehors du village. C'est une production pour par le village, pour le village. Ils n'en vendent pas ailleurs.
Déjà, la région où je travaille, ce n'était pas une région très touristique. Vous savez que Cusco, c'était la ville, une des villes plus touristiques de l'Amérique du Sud. L'endroit le plus connu, c'est la vallée sacrée. C'est la vallée pour aller vers Machu Picchu. Donc, toutes les communautés de ce côté sont plus connues. Ils ont développé une activité textile à niveau commercial, on va dire, que oui, ils vont vendre ces textiles. Mais dans la région où je suis, que c'est à l'autre extrême, non. Ils vont tisser seulement, ils vont produire les textiles pour l'utilisation familiale. Et des fois, dans les petites foires locales, ils vont vendre ces textiles. Mais il n'y a pas ces notions de vendre ou de confectionner pour un marché plus large.
Et du coup, ça reste une production au sein de la famille. Chaque famille a sa propre...
Oui, chaque famille doit produire ses textiles. Mais cette tradition, malheureusement, elle est en train de se perdre. Parce que, par exemple, avant, la femme, avant de se marier, elle devait tisser une uncuña et un poncho. L'uncuña pour elle, pour le porter le jour de son mariage. Et pour son futur mari, un poncho. Donc, c'est pour ça que toutes les femmes à San Pablo, ils sont un cugna et les hommes, ils sont son poncho. Sauf que actuellement, les jeunes filles, elles ne tissent pas. Parce qu'on dit que c'est difficile, c'est trop lourd à tisser pendant 3-4 mois. Et me dit des fois, la mère de mon mari n'est pas d'accord parce que je ne tisse pas bien. Donc, oui, parce que les femmes sont jugées par rapport à la finesse du tissu. Donc, elles préfèrent se demander à quelqu'un qui s'est connu comme une bonne tisseronde de tisser la uncuña et le poncho pour elle.
Oui, moi, j'avais deux questions. La première, c'était justement sur les pièces qui sont encore tissées sur le métier horizontal. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, est-ce que j'ai lu quelque part que pour les vêtements de deuil, le fil était tissé S. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose comme ça?
La première question, sont tous les textiles que j'ai mentionnés, uncuña, poncho et toutes les variétés de uncuña, les petits sacs, que vous avez vu, sont tissés dans les métiers à tisser horizontal. Seulement les draps et les tissus pour faire la confection du système vestimentaire traditionnel, c'est-à-dire le pantalon, la robe, la liglia, avant c'était tissé dans les métiers à tisser à pédale, parce que c'était plus long à faire, de grandes étoffes. Pour la dernière question, est-ce que ça, je ne sais pas vraiment. Dans la région où je travaille, ils ne m'ont pas dit que c'est pour le deuil si on tisse vers la gauche. Mais des fois, ils vont amener des fils tordus vers la gauche. On perd toujours. Pour se protéger, ils vont l'amener ici autour de la ceinture. C'est pour se protéger des mauvais esprits. Et surtout quand ils vont à la montagne, ils vont faire des balades, ils ne doivent pas s'asseoir sur certaines parties de la terre parce qu'ils considèrent qu'il y a des mauvais esprits. Et donc, pour ne pas les attraper ou les laisser entrer, ils vont se protéger avec ces fils tordus vers la gauche.
La guérilla est faite sur le métier à pédale.
Déjà, la liglia à San Pablo, la caractéristique de que la liglia, ce n'est pas tissé. Ce n'est pas tissé. C'est pour, la liglia, dans d'autres régions, c'est tissé et c'est fait avec le métier à tisser horizontal. La uncuña de Santa Barbara, elle est faite le métier à tisser horizontal. Pardon? Par exemple, le tissu de la jupe, elle est faite avec le métier à tisser à pédale. Parce que la caractéristique, c'est qu'elle n'est pas vraiment... on serrait les fils, sont un peu souples. Donc, c'est quoi que tu sais au métier tissé horizontal? C'est les rubans en bas. Ça, c'est fait par les femmes. Tandis que l'autre, c'est tissé par les hommes. Mais actuellement, on peut aller dans les marchés et acheter un tissu pour les faire broder.
Je voudrais savoir, là, on connaît une femme en fait plusieurs fois dans sa vie. Et puis, qu'est-ce qu'il arrive à la pièce une fois qu'elle est décédée?
Oui, et les femmes, normalement, elles commencent à tisser à partir de 10 ans, 12 ans. Mais une vraie oncugne, elles vont faire quand elles vont se marier, c'est-à-dire vers 20 ans, 22 ans. Ils vont tisser s'ils ont besoin. Ils ne vont pas faire qu'une seule oncugne, ils vont faire plusieurs oncugnes parce qu'elles ont besoin pour les rituels. Comme vous avez vu, il y a besoin pour porter les objets de la maison vers l'enclos. Donc, on a besoin de beaucoup d'oncugnes. Il y a une oncugne qu'on utilise tous les jours. Il y a une oncugne qu'on va utiliser surtout le carnaval et les jours de fête. Il y a une oncugne, des fois, pour les femmes plus traditionnelles, c'est l'oncugne de deuil, que la pampa c'est noire. Et ça dépend des fois pour aller descendre à la ville la plus proche que c'est Sichuan, ils vont porter une autre oncugne. Donc c'est un tissu assez pratique pour les femmes. Et l'unique chose qu'ils m'ont dit, que quand la personne meurt, normalement ils vont garder l'oncugne ou soit elle est héritée à sa fille. Donc on continue à les utiliser.
L'étape de la teinture.
Ah oui. Oui, parce que comme je vous avais dit, c'était la communauté où je travaille, ils ont un peu perdu la tradition textile, ou sea, cette tradition de faire de la teinture. Ils utilisent des fils synthétiques, on va dire, depuis 1950-1960, et aussi les teintures chimiques de aniline pour faire la teinture. Ou des fois, ils vont utiliser que les couleurs naturelles d'alpaga, comme on a vu dans la fin. Par exemple, ça sont naturels, les noirs et les beiges. Ici, tous sont faits en couleur naturelle. Ça, à Santa Barbara, ils ne font pas de la teinture. Mais c'est tout un processus, un savoir-faire que dans la communauté s'est perdu. Mais normalement, on peut les retrouver dans une communauté à côté qui s'appelle Pitumarca ou dans les communautés de la Vallée Sacrée. Mais je ne peux... Je ne peux pas dire plus que ça. Désolée.
Parce que oui, pour être allé là-bas, j'ai vu des petites oncugnes qui sont justement seulement marron, noir, non, marron, blanc, la couleur naturelle des. Je me demandais si vous avez une autre utilisation ou une autre mission.
Si, par exemple, pour l'oncugne qu'on va utiliser pour garder les pierres sacrées, elles vont utiliser généralement des couleurs naturelles, pas des couleurs synthétiques. Parce que pour eux, les couleurs, déjà l'alpaga, c'est l'animal de l'Apu, de la montagne sacrée. Donc, il faut, pour garder l'énergie de cette pierre, il faut les mettre vraiment dans les tissus naturels qui deviennent de l'animal de l'Apu. Donc, ils gardent mieux l'énergie.
C'est les petites.
Oui. Exactement, qu'il y avait des pompons. Et ça, c'est normal, c'est la notion de la dualité pour la région andine, c'est très importante. C'est une notion d'opposition complémentaire.
C'est toujours deux couleurs,
ou quatre couleurs, ou quatre teintes. Oui, pour les tissus rituels, qu'on dit, c'est toujours deux couleurs, ou ça dépend quatre. Mais pas plus que ça, et normalement, sont tissés vers la gauche, et avec des laines naturelles, des couleurs naturelles. Et pour les fêtes, et n'importe quelle autre utilisation, on utilise des fils synthétiques. Pour les jeunes femmes, ils m'ont dit, c'est pour les faire plus flash. Comme ça, les garçons, ils vont nous repérer plus facilement. Donc.